pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue. Quand la nature reprend ses droits dans nos villes, sur les trottoirs, dans les jardins ou les terrains vagues, comment le vivant peut-il s'installer dans un milieu a priori hostile? Et comment protéger ces espèces végétales et animales? Nous explorerons la biodiversité urbaine en deuxième partie de cette émission.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Haïti, yo chéri, Haïti, wap soufri, Haïti, son mouri, sa capote, sa pou.
Ils et elles font bouger les lignes et s'engagent en faveur d'une écologie solidaire. Deux initiatives à l'honneur, tout de suite dans C'est pas du vent. Un colloque pour réfléchir à la filtration de l'eau afin de la rendre potable partout sur la planète. Mais d'abord, nous partons en Haïti, à Port-au-Prince, où 80% des ordures finissent dans la rue. Une entrepreneuse française s'est lancée dans le recyclage de produits bien spécifiques. Son entreprise, baptisée Anna Kaona, récupère les savons usagés des hôtels. Reportage d'Amélie Baron à Port-au-Prince.
Quelques grammes de savon abandonnés dans une salle de bain, ça n'est pas grand-chose, mais multiplié par le nombre de chambres occupées chaque jour dans une vingtaine d'hôtels en Haïti, ça commence à compter. Laure Bottinelli, 28 ans, nous raconte comment a germé l'idée d'Anna Kaona.
L'idée a commencé en 2015. J'habitais à Jacmel, je travaillais en ONG là-bas et j'avais entendu parler d'organisations qui recyclaient du savon en Asie du Sud-Est. J'avais trouvé ça intéressant, j'avais envie de prendre un peu de recul sur ce que je faisais en Haïti, donc j'ai passé 4 mois à Bali, au Cambodge et en Inde pour observer un petit peu ces organisations. J'ai trouvé le concept formidable et je me suis dit, allons essayer de faire ce projet en Haïti puisque ce modèle n'existe pas du tout ici. Donc je suis revenue en janvier 2016 et avec Mélanie Gézère et Johanna Charles, on a créé la première société anonyme de recyclage de savon en Haïti.
Première étape, il a fallu démarcher les hôtels et leur personnel. Et comme en témoigne Mike Cardozo-Stevenson de l'hôtel Montana à Port-au-Prince, prouver l'intérêt de ce recyclage n'a pas été compliqué.
Nous avions idée du gaspillage parce qu'un client vient en général, il reste une nuit, deux nuits, trois nuits et il reste toujours un petit bout de savon. Et aussi dans une notion de service, quand un savon tire vers sa fin, on le remplace tout de suite pour donner un savon nouveau. D'ordinaire, le personnel récupérait le savon pour leur utilisation. Mais Laure a mis en place un package. On l'a introduit au niveau du personnel housekeeping. Donc, ils ramassent volontiers le savon qu'ils remettent alors une fois par mois. En échange, ils reçoivent quelques savons qui sont, eux, nettoyés, c'est-à-dire plus hygiéniques pour leur utilisation.
Une fois par mois, l'équipe d'Anna Kaona collecte les kilos de bouts de savon dans les hôtels et c'est dans le bureau atelier au cœur de la capitale que les employés leur donnent une deuxième vie.
Chaque savon est stocké en fonction de sa qualité et ensuite il passe à la première phase où Madame Judith travaille et ça, cette phase est cruciale puisque c'est la phase d'assainissement. Donc c'est cette phase où on va rendre le savon à nouveau propre.
Et avec un couteau économe en main, Madame Judith ne rate rien. Les savons nettoyés sont râpés puis fondus pour être enfin retravaillés. Café, miel, agrumes ou moringa, les produits utilisés pour les parfumer sont tous haïtiens et bio. Et même souci du détail pour ce qui est de l'emballage.
On avait envie vraiment que notre savon ressemble à un produit haïtien. Donc c'est pour ça qu'on a du sisal. Et là aussi, c'est le soutien à des paysans qui viennent du nord de l'île. Nos étiquettes qui nous disent si le savon c'est du café, du grenadia, du moringa. Puis ensuite on met un petit peu de plantes du jardin et puis on le sert avec du sisal. Donc c'est un packaging minutieux. On l'enveloppe dans du cellophane maintenant, plus dans du papier de soie pour qu'on puisse le voir mieux. Le cellophane qui est biodégradable aussi, donc ça nous fait très plaisir. C'est pas l'environnement, Anna Kaona, c'est pas seulement recycler du savon, c'est aussi que notre produit fini ait un impact... le moins d'impact négatif sur l'environnement que possible.
Donner une deuxième vie au savon d'hôtel, c'est un travail. Anna Kaona ne fait pas la charité et a donc salarié ses employés. Laure Bottinelli y tenait particulièrement.
Moi, j'étais pas revenue en Haïti pour faire une ONG en plus. Donc oui, être une société anonyme légale, c'est avoir des femmes qui sont sous contrat, des femmes qui ont une fiche de paye, des femmes qui ont signé un règlement intérieur. On en a qui savent pas lire et pas écrire, mais on leur a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire qu'un contrat de travail. On leur a expliqué qu'il y avait des règles à respecter, mais qu'elles avaient aussi des droits, en fait, qui les protégeaient. On a une patente de fonctionnement, donc le ministère du Commerce sait qu'on existe. Et donc c'est toutes ces étapes-là, ça a demandé 10 mois de travail pour que voilà, pour qu'on soit complètement fiscalement intégré aux normes haïtiennes.
Et l'idée était aussi de privilégier l'embauche de femmes vulnérables. Dans l'atelier, les 3 employés sont mères célibataires. Pour Magwana Frémont, ce travail était inespéré.
C'est bon Dieu qui t'a amené à Nakaona pour nous-mêmes.
C'est le bon Dieu qui nous a amenés à Nakaona, à nous, qui sommes 3 mamans. Avant, je faisais un peu de commerce informel, mais ça ne suffisait pas pour payer l'école, la nourriture et le loyer. Nakaona aide vraiment le pays et je sens que ça m'aide beaucoup. Mes enfants sont tous à l'école, je peux leur donner à manger. Je loue un logement, mais maintenant, je suis en train de faire construire. Alors oui, je sens que ça m'aide.
Et au-delà de ses employés, Nakaona aide les habitants de Cité Soleil. Dans le quartier le plus pauvre de la capitale, les ambassadeurs de l'hygiène de l'entreprise font du porte-à-porte pour apprendre ou rappeler aux gens les règles sanitaires de base. Judeline Joseph, qui habite à Cité Soleil, est l'une de ses ambassadrices.
Les gens pouvaient négliger certains gestes. Maintenant, ils ne le font plus. Ils savent qu'ils doivent se laver les mains après être allés aux toilettes, qu'ils doivent bien laver les latrines ou bien traiter l'eau avant de la boire. Mais ils oublient parfois de le faire, des fois, car ils n'ont pas les moyens. Maintenant, quand ils me croisent dans la rue, ils se rappellent. Ah, cette femme m'avait donné un conseil. Ça montre qu'ils sont toujours prêts, car ils n'oublient pas qu'une ambassadrice était venue leur parler.
À Cité Soleil ou dans les écoles de Jacmel, sur la côte sud du pays, l'idée d'Nakaona est d'agir contre les maladies hydriques, choléra en tête. Depuis bientôt 8 ans, l'épidémie sévit toujours, faute de bonnes conditions d'hygiène.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Près de 750 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Et il est urgent de changer radicalement la façon d'utiliser notre eau et de la partager, selon l'ONU. Bonjour Vincent Edry.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes directeur de l'Institut de filtration et des techniques séparatives. Et bonjour Roger Benahim.
Bonjour.
Vous êtes le président du conseil scientifique de ce même institut et tous les deux, vous co-organisez le premier congrès francophone sur les techniques séparatives de l'eau, on y reviendra, du 29 au 31 août à Bordeaux, un congrès qui va rassembler les chercheurs de 10 pays francophones, qui peut paraître a priori très technique, mais qui concerne évidemment beaucoup les pays du Sud. Alors, quelle est l'idée derrière ce congrès ?
L'idée d'origine de ce congrès francophone est née lorsque Roger Benahim et moi-même avons assisté en 2016 précisément et au mois d'avril dernier donc au premier congrès africain des membranes qui avait lieu à Tunis en Sfax et qui réunissait je dirais les forces vives scientifiques et industrielles africaines.
Et ces membranes en fait permettent donc de filtrer l'eau. Vous nous expliquez comment ça fonctionne ?
De façon très simple, ce que l'on peut dire, c'est que les membranes, c'est comme un tamis. Mais un tamis, ça permet de séparer à l'échelle du millimètre, alors que les membranes permettent de séparer à une échelle beaucoup plus fine, en allant jusqu'au millième de millimètre, voire en deçà. Et en particulier, la phase ultime, c'est de séparer le sel de l'eau dans l'eau de mer. Donc ce sont les atomes de sodium et de chlore qui peuvent être séparés de l'eau grâce à des membranes. Et ça, c'est une technique qui s'est fortement développée dans les 20 dernières années et qui est de plus en plus utilisée en Afrique maintenant, en particulier en Afrique du Nord.
Et quel enjeu représente, selon vous, ces techniques-là pour l'ensemble du continent africain ?
L'enjeu, il est très clair. L'enjeu, c'est l'accès à l'eau. Et cet accès à l'eau, on le sait bien, il devient de plus en plus inégal sur la planète. Ce que tout le monde appelle le changement climatique aujourd'hui revêt dans ces pays-là donc une crucialité particulière.
Et on sait que sur le continent africain, 36% de la population ne dispose toujours pas d'un point d'eau accessible, d'eau potable, j'entends. Roger Benahim, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu à quoi peuvent ressembler des systèmes de filtration ?
Avec les techniques membranaires, on est capable de produire depuis des installations de très petite taille, tout à fait adaptées à une production décentralisée d'eau potable, et c'est ça leur intérêt. Alors bien sûr, toute technique de ce type nécessite de l'énergie. Pour faire passer l'eau à travers un tamis qui est très fin, et bien il faut pousser. Et c'est un des problèmes qui est traité actuellement et qui fait l'objet de nombreuses recherches, c'est de trouver des sources alternatives d'énergie pour produire de l'eau potable de façon délocalisée en utilisant l'énergie solaire, l'énergie éolienne, voire d'autres sources d'énergie.
Et Roger Benahim, où peut-on récupérer l'eau avant de la filtrer ?
Alors, ou bien on dispose d'eau douce, courante, de fleuves, de rivières, plus ou moins contaminées, et le problème est relativement simple à résoudre. Ou bien on dispose, si on n'est pas près de la mer, on peut disposer d'eau saumâtre. Il y a énormément de régions en Afrique, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une mer à la place du Sahara et qu'il reste des nappes souterraines d'eau saumâtre. Les eaux pluviales qui nécessitent un traitement allégé avant de devenir une eau potable.
Justement, vous parlez des eaux pluviales. Pourquoi ne pas transformer le brouillard en eau dans les régions qui en manquent ? C'est étonnant, mais possible. Comment ? Grâce à des filets de plusieurs mètres de haut posés en altitude. C'est le pari relevé par une association marocaine dans la région semi-aride de Sidi Ifni, dans le sud-ouest du pays. Le président de l'association, Aïssa Derem, nous raconte comment l'idée lui est venue.
J'avais entendu parler d'expériences qu'on faisait au Chili pour ramasser de l'eau. Mais en retournant dans le village de mes parents, j'ai entendu dire que au-dessus de notre village, il y a une montagne qui a fait à peu près 1225 mètres, Bout Mesguida, c'est là où on a fait l'expérience plus tard. Il y avait des stations de télévision. Et on m'a dit que ces stations de télévision recueillaient de l'eau. Parce que comme c'était du métal, c'était froid, le brouillard allait dessus, il se condensait et ça tombait. Bah, ça a cliqué dans ma tête. J'ai dit, tiens, c'est la même chose qu'au Chili. Et donc à ce moment-là, j'ai pensé, comme on commençait déjà à travailler dans la région, dans des projets de développement, j'ai pensé que l'idée était là et qu'il fallait essayer de l'exploiter.
Parce qu'il y avait déjà ce type de filet au Chili.
Oui, les expériences existent déjà en Afrique du Sud depuis le début du XXe siècle. Mais surtout, je pense au Chili, à partir des années 60-80, les gens ont commencé à réellement penser à ça. L'idée, ça consiste simplement à mettre, comme dans un terrain de volley-ball, vous avez deux piquets et entre les deux, il y a un filet. Et donc le brouillard passe à travers ce filet et au-dessous du filet, il y a comme une rigole qui ramasse cette eau, qui descend goutte à goutte. Et les canalisations à ce moment-là ramassent cette eau-là et vous l'amenez là où vous voulez l'utiliser. Et c'est une eau qui est pratiquement de l'eau distillée, qui est très très pure. Nous avons 600 mètres carrés de filet. Et donc, on les met côte à côte, c'est-à-dire, ça veut dire que vous avez 40 filets. Et on tient compte aussi du vent, de la turbulence, de telle sorte qu'il y a une façon de les disposer. Mais disons que c'est un champ de filets.
En haut, donc, de la montagne.
En haut de la montagne. Et généralement, ça émite, regardez celui-là, ça émite plus ou moins une toile d'araignée. Et c'est, l'idée vient de là.
Parce que les araignées piègent aussi l'eau, en fait, avec leur toile, dans leur toile.
Tout à fait, ça imite la nature, ça imite effectivement les araignées. D'ailleurs, sous nos filets, il y a des toiles d'araignées. Elles tissent leur toile exactement en face du brouillard et quand le brouillard passe, elles le piègent. Goutte à goutte, elles aussi, elles sont intéressées par le brouillard, comme nous. Nous avons 7 mois de brouillard et L'expérience, nous l'avons commencée en 2006, puis on a fait des mesures pendant pratiquement 5 ans, jusqu'en 2011. Et là, on a commencé à construire nos filets. En plus, le rendement, on l'a augmenté pratiquement de 50%. Actuellement, on peut avoir 15 litres par mètre carré par jour. Et quand je dis ça, c'est une moyenne. En fait, ça veut dire que vous passez peut-être des mois sans rien avoir. Mais quand ça arrive, ça peut être jusqu'à 100, 150, 200 litres par mètre carré par jour. Et donc le problème avec ça, c'est que comme pour toutes les choses naturelles et renouvelables, il faut avoir des moyens de stocker cette eau quand elle arrive. Alors du coup, par exemple, dans notre projet, nous avons deux citernes. Ensemble, elles font 500 tonnes, de telle sorte que quand il y a du brouillard, on peut le ramasser, vraiment. Et cette eau, c'est une eau distillée. Donc on la minéralise en rajoutant de l'eau d'un puits. Et là, elle descend directement dans les citernes et puis elle sert les villages. Nous avons à peu près 5 villages et donc on sert 300 jusqu'à 400 personnes.
C'est étonnant de se dire que le brouillard peut être en fait une richesse, une ressource.
C'est une richesse et c'est une ressource. Je vous dis, nous autres, notre pluie, c'est précisément le brouillard. Donc le brouillard, lui aussi, si on développe ces techniques et qu'on les perfectionne dans beaucoup de ces pays-là, c'est l'euro. Dans tout le Maroc, dans toute l'Afrique du Nord, dans le Sahel, en Mauritanie, dans toutes ces régions subtropicales où il y a beaucoup de brouillard. Tous ces pays-là peuvent utiliser le brouillard, et en particulier pour nous au Maroc, qui n'avons aucune eau, c'est une nécessité. Notre eau est là, et qui n'est pas du tout exploitée.
Et grâce à ces filets dans cette région du sud-ouest du Maroc, les habitants peuvent recevoir 35 litres d'eau par jour au lieu de 8 auparavant par personne. Alors on parle là d'eau de pluie distillée, minéralisée, puisque mélangée avec de l'eau de puits. Que pensez-vous de cette initiative, Vincent Edry ?
Alors cette initiative est particulièrement intéressante, rejoint d'ailleurs celle que d'autres régions du monde ont, alors pas forcément avec les mêmes technologies. Quand on voit un petit peu toutes les initiatives qui existent pour aller creuser des puits, on pense bien trop souvent à la technologie à mettre en œuvre, à se dire je vais faire un trou, un puits, une pompe, et puis je m'en vais. Ce qui marche, ce qui est pérenne, ce sont les structures qui ont réfléchi à l'accompagnement, l'éducation. Il y a tout un accompagnement autour qui fait que 15 ans après, le puits qui a été créé et continue à être opérationnel, que les éléments qui permettent de traiter l'eau continuent à être maintenus, parce que c'est tout un ensemble qui est vu et ce n'est pas seulement la technologie qui est apportée.
Et il reste encore de nombreux défis dans les pays du Sud en termes de filtration, mais aussi de distribution et de gestion de l'eau. Merci Vincent Edry. Merci également Roger Benahim. Je rappelle que vous co-organisez le premier congrès francophone sur cette question de la filtration de l'eau fin août à Bordeaux, dans l'ouest de la France. Congrès qui va rassembler les chercheurs de 10 pays francophones. Dans un instant, nous parlerons de la biodiversité urbaine. Quand la nature arrive en ville, à tout de suite dans C'est pas du vent.